Bienvenue dans le podcast Sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes?
Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti!
Alors aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye de Boulor, une abbaye de sœurs cisterciennes fondée en 1949 dans le Gers. Bien plus qu'une ferme, l'abbaye de Boulor est un lieu unique où se rencontrent agriculture et spiritualité, travail et prière, terre et ciel. Nous sommes en compagnie de sœur Marine, une des 31 sœurs de la communauté de l'abbaye de Boulor. Bonjour Marine. Sœur Marine.
Merci beaucoup de nous accorder ton temps qui est très précieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tu as rejoint la communauté et quel est ton rôle ici?
Alors, je suis rentrée dans la communauté en 1998 et actuellement, je travaille à la cuisine. Je prépare le déjeuner en priorité et voilà, je travaille à la cuisine et
voilà. Et c'est vrai qu'on mange très bien ici.
Particulièrement gourmand, oui.
on est vraiment gâtés. Et est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement l'abbaye, la moyenne d'âge des sœurs, un petit peu.
Alors, nous sommes une communauté donc de 31 sœurs, comme vous l'avez dit, qui va de 25 ans à 94 ans, avec une moyenne d'âge plutôt autour de 43 ans. Donc, c'est une grâce assez particulière dans le monde monastique actuellement d'avoir une communauté qui est jeune. C'est lié à une grâce du Seigneur, c'est aussi lié à Claire de Castelbajac qui, à la suite d'une neuvaine à Claire, nos anciennes avaient demandé par son intercession 5 vocations dans l'année. Il y a 5 sœurs qui sont rentrées et depuis le flux est continu de vocations parce que la jeunesse appelle la jeunesse, parce que la vie que nous propose de vivre le Seigneur ici est une vie qui suscite l'enthousiasme, qui a un très bel équilibre en fait entre retour aux sources, à la terre, et puis la tradition monastique, le chant cistercien. C'est vraiment un équilibre entre les traditions et la modernité, parce que on a aussi tous les outils possibles pour vraiment travailler dans des bonnes conditions. Et du coup, ça donne un dynamisme à la communauté qui fait qu'aujourd'hui, on est 31 sœurs jeunes.
Ouais, c'est assez particulier, assez agréable du coup de parler avec des personnes qui ont proche de notre âge presque parfois, c'est étonnant. Et vous parliez d'équilibre, il y a aussi du coup un équilibre à trouver entre agriculture et vie moniale en tant que telle. Et parce que donc l'abbaye a la particularité d'avoir choisi l'activité agricole. Et alors pourquoi cette intuition finalement de vouloir produire quelque chose et d'ajouter ce travail à la vie monastique?
Alors ça, c'est vraiment voulu dès la fondation de l'ordre. Nous, on suit la règle de Saint-Benoît et vraiment cet équilibre prière et travail était vraiment voulu par notre règle de vie. C'est pour Saint-Benoît, il le dit très bien, c'est l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. C'est-à-dire que le fait d'avoir une activité régulière nous permet d'entretenir notre prière. La spécificité du travail agricole est plus propre aux cisterciens, même si aujourd'hui, avec l'histoire, beaucoup de bénédictins aussi ont des fermes agricoles. Mais ce retour au travail de la terre donne une authenticité à notre travail et nous ancre aussi dans le temps long. La nature, on ne peut pas la forcer. Elle va au rythme des saisons, elle va au rythme du temps et chaque chose doit prendre son temps pour mûrir et notre vocation, et pour mûrir à la vocation qui est notre vocation, c'est le ciel. On a besoin de ce temps-là et de vivre en osmose avec la nature nous permet d'entrer dans ce temps long et de voir un arbre qu'on connaît quand on rentre en 98 qui est tout petit et qui aujourd'hui est un arbre magnifique. Et ben, ça nous ancre vraiment dans le réel du temps passé. Nous, on voit pas nos enfants grandir, mais on voit toute la nature porter du fruit. Et après, l'intuition de nos anciennes, quand elles sont arrivées ici, c'était très pragmatique. Elles sont arrivées tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. C'était très difficile de se procurer de quoi manger. Et l'agriculture est le lieu par excellence où on trouve de quoi manger. Donc, elles cultivaient d'abord pour nourrir la communauté. Et au fur et à mesure où la communauté s'est agrandie et où il a fallu payer les cotisations sociales et toutes ces genres de choses-là, elles ont trouvé une activité qui permettait de dégager des dividendes pour nourrir. On se nourrit en priorité de nos produits. C'est pour ça que, en fait, la cuisine de l'abbaye est si bonne. C'est parce que les carottes, les salades, tout ça, ça vient du jardin. Donc, on sait comment c'est né. Ça a le goût de ce qu'on mange. C'est pas, parfois, on trouve des tomates à toute saison dans les commerces, mais ça a goût de rien. Nous, quand on mange une tomate, on sait et on sent son goût. Mais vraiment, au départ, c'est un choix tout à fait intuitif de se dire, en fait, on a besoin d'avoir de quoi manger, et pour avoir de quoi manger, bah, produisons-le.
Et donc justement, tu parles de rapport au temps. On a vu que quand même, le programme d'une sœur est très chargé, les journées sont bien remplies. Comment ça s'organise du coup entre prière, office, messe et travail, donc travail agricole ou travail en cuisine?
Alors l'idée, en fait, c'est de que toute notre journée soit prière, et que, en fait, notre prière nourrisse notre temps de travail et notre temps de travail nourrisse notre prière. Et que ce soit vraiment des vases communicants. Il y a des, comme on n'est pas rentré au monastère pour être les meilleures cuisinières meilleures cuisinières de France ou la meilleure agricultrice ou quoi, on a des temps qui nous interrompent très régulièrement, qui nous empêchent, en fait, de partir dans le travail. Ça peut paraître de nuire à la rentabilité de notre travail, mais en fait, ça, c'est très très bon pour notre vie spirituelle. Ça nous apprend à tout recevoir de Dieu. C'est-à-dire que, oui, je me lance dans un plat, et la messe sonne, je lâche tout, c'est demandé par la règle, je lâche tout pour aller à la messe, je lâche tout pour aller à l'office. J'ai pas fini, c'est pas grave.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est très contre-intuitif quand on pense à l'élevage, aux soins qu'il faut apporter en permanence aux bêtes. Et donc ici, sur cette ferme, on a une vingtaine de vaches.
Oui.
Des jerseyennes. Donc, est-ce que c'est pas difficile de se détacher de ce quotidien agricole?
Alors, non, parce que vraiment, ils se nourrissent l'un l'autre. Et en fait, on n'est pas rentré pour le quotidien agricole. On est vraiment rentré pour le bon Dieu. Et vraiment l'être en contact avec la création et en contact avec les créatures, les bêtes, les animaux, ça nous aide aussi à être dans une louange au Créateur, parce que tout ça n'existe que parce que ça nous est donné. Tout nous est donné. Donc après, notre horaire quotidien est quand même adapté pour que les sœurs puissent faire leur travail de manière productive, constructive, et sans que ça soit complètement à chaque fois la course poursuite et la panique, parce que on n'arrive pas à faire son travail dans le temps. Évidemment, on a de la traite, il faut adapter les horaires de la communauté aux heures de traite, mais c'est pas notre priorité absolue. C'est vraiment notre vie de prière qui doit informer notre travail, et pas le travail qui doit informer la vie de prière.
Justement, le programme, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de comment s'organise une journée depuis le réveil à 5h, si je me trompe pas?
Alors voilà, on est réveillé à 5h. On a d'abord l'office de vigile de 5h15, parce que entre le moment où on est réveillé, le début de l'office, on a un quart d'heure, de 5h15 à 6h, après un temps de lecture de la Bible, une méditation silencieuse, chacune personnellement, jusqu'à l'office de l'aude à 7h15. Donc l'office de l'aude avec un autre chapitre, le chapitre après, ça nous amène jusqu'à 7h30. Et donc là, de 7h30 à 9h, on a le temps de prendre le petit déjeuner et de commencer le travail. Donc les sœurs, par exemple, font la traite à ce moment-là. 9h, la messe. De 10h à 12h30, un temps de travail. Un office, le déjeuner, le temps de faire la vaisselle, un bout de sieste, parce que comme on s'est réveillé tôt, c'est bien de récupérer un peu après le déjeuner. Et on reprend le travail après l'office de nonne à 3h15, jusqu'à 18h, vêpres, jusqu'à 18h30. Puis un temps de travail un peu court, mais qui permet aux sœurs de faire la traite, avant le dîner, et après le dîner, compli et au lit.
Et donc du coup, cette cohabitation entre vie de prière et vie de travail fait qu'on a une approche de l'agriculture qui est très différente, qui est pas dans la rentabilité qu'on peut imaginer de manière classique. On est plus dans la fécondité de la terre.
Voilà, en fait, mais c'est un des objectifs, c'est vraiment de passer de l'efficacité à la fécondité. Après, nous, la terre, on veut qu'elle produise du fruit, on fait ce qu'il faut pour qu'elle produise du fruit, mais on va pas la forcer, la brusquer. On est en agriculture biologique, Et pour le moment, on a fait des choix aussi de dire, en fait, on met même pas de désherbants qui seraient reconnus en bio, ou de, on fait ce qu'il faut comme assolement, comme on réfléchit l'assolement, on fait encore un peu de labour parce que le zéro labour, c'est bien, mais c'est très difficile de maîtriser les mauvaises herbes dans ces cas-là. Et que nous, on n'est pas équipés non plus. Donc, on essaye de réfléchir les choses pour que la terre donne le meilleur d'elle-même, mais en sachant que, ben, en fait, être en agriculture biologique au potager, on a aussi tout le potager qui n'utilise pas de pesticides, ça prend beaucoup plus de temps. Le désherbage à la main, l'entretien des planches, de tout, c'est gourmand en temps. Mais le temps, on veut le prendre et on veut aussi donner l'occasion à d'autres de le prendre avec nous. C'est-à-dire qu'on est toujours très heureuse quand il y a des jeunes qui viennent nous aider pour découvrir en fait ce que c'est que d'avoir une bonne salade dans son assiette. Et ben ça vient pas comme ça, en claquant des doigts. Et ça, je pense que c'est une des grâces du confinement, c'est que ça a permis à quand même beaucoup de comprendre que ben en fait ce qu'ils avaient dans leurs assiettes, ben c'était donné, et c'était le fruit d'un travail acharné de certaines personnes qui ne vivaient pas de leur travail, et que c'était un scandale. Et là vraiment de retrouver le côté je vais chez mon agriculteur du coin pour m'acheter mes choses, ben c'est fabuleux. Ça, pour les agriculteurs, ça va les sauver, parce que là c'est hyper dur d'être agriculteur aujourd'hui, hein. On passe des heures, on est tributaire de la météo. Et puis c'est des heures et des heures de travail qui pour un salaire de misère à la fin, et une retraite encore plus misérable.
Oui, malheureusement. Ouais.
Et donc pour les sœurs de la communauté, c'est vraiment un engagement aussi que d'être agricultrice. C'est vraiment.
C'est aussi un engagement, parce que dans le Gers, c'est un diocèse ou un département excessivement rural, et on vit ça comme une valeur de témoignage aussi. Là, tout notre projet Grange 21, on l'inscrit aussi dans développer les produits locaux. Dans notre futur magasin, on espère bien pouvoir avoir des produits locaux faits par des voisins. On a des voisins qui font du foie gras, on a des voisins qui font du fromage. Et ben, on aimerait pouvoir les vendre dans notre magasin. On a des voisins qui font des lentilles bio, des fruits secs. Enfin, on peut faire un magasin, genre petite épicerie. Et notre engagement, il est profondément ancré dans le réel de notre département. Et on se dit, on a continué les vaches laitières, alors qu'il y en a plein qui arrêtent, parce que c'est vrai que c'est très contraignant, ces traites et tout ça. Mais on s'est dit, on a vraiment valeur de témoignage aussi pour les gens du coin. Et ils nous le rendent très bien. On a des voisins qui sont adorables avec nous, qui nous apprennent le métier. Enfin, des sœurs qui viennent du monde agricole... Elle se compte sur le doigt de la main.
Ouais.
Et on n'y connaît rien. On arrive ici, on n'y connaît rien. On est parisienne, on nous met responsable de l'exploitation agricole. Bah, très bien. Ouais, et on a des voisins qui sont adorables et qui nous apprennent, mais qui prennent le temps et qui sont tellement heureux de transmettre.
Ouais.
Donc on leur donne la joie de transmettre. Ça fait vraiment partie des choses qui sont hyper importantes pour nous. C'est ce témoignage aussi d'amour du monde agricole.
C'est vrai que c'est un très beau témoignage qui nous a beaucoup touchés lors de notre séjour. Et donc tu évoquais donc le projet de Grange 21. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que là ça fait la une de beaucoup de journaux, il y a des articles partout, on a encore croisé M6 en sortant des vêpres. Qu'est-ce qui se passe alors à Boulor, et quel est ce gros projet et toutes ces grues là?
Alors, le projet Grange 21, c'est né d'une réalité objective. Hein. C'est notre étable, elle était trop petite, insalubre, et elle demandait un travail acharné à nos sœurs, puisqu'on devait faire curer le fumier à la fourche, faire que des petites bottes carrées, donc tout ça, lever à la fourche, tout ça. Les forces physiques ne suivaient plus. Et puis c'est pas, enfin voilà, maintenant il y a des moyens qui font que c'est pas nécessaire de continuer comme ça. Et puis la croissance de la communauté faisait qu'il fallait augmenter notre production, notre vente surtout. Donc on a réfléchi en communauté à plein de projets, ne développer que une sorte de fromage, et puis faire presque de l'industrie sur ce fromage. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas en phase avec ce qu'on voulait, c'était pas en phase avec ce qui nous inspirait vraiment, c'était pas en phase avec Laudato aussi, tout simplement. Et on en est arrivé à ce projet de conserver notre équilibre économique, qui est sur trois piliers, en tout cas au niveau agricole: pâté, fromage, confiture. Et on a ajouté un quatrième pilier, comme ça c'est encore plus stable, avec la farine. Et donc, se dire qu'on voulait garder cet équilibre, ça nécessitait des investissements énormes pour faire les bâtiments qu'on puisse pour pouvoir augmenter toutes les ces quatre lieux de travail. Et donc on a lancé un projet, on avait fait un premier bâtiment, un très grand truc qu'on avait planqué un peu, et les architectes des bâtiments de France ont dit affreux, dans un si beau lieu, pas possible. Donc ils nous ont invités et ça a été formidable parce qu'on du coup on a été confrontés à la réalité de se dire ben qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fait pour que ce projet s'inscrive dans un lieu, qu'il soit beau et qu'il donne et il mette en valeur aussi le reste du monastère. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Grange 21, notre étable et nos bâtiments qui sont donc une étable pour mettre 25 vaches et un bâtiment pour avoir une fromagerie qui va pouvoir traiter le lait de 25 vaches, donc beaucoup plus que celle qu'on a actuellement, de quoi faire du pâté en plus grande proportion et des confitures en plus grande proportion. Tout ça avec des bâtiments magnifiques, donc pas du tout les hangars qu'on voit chez les agriculteurs habituellement, mais du bardage bois, de la vraie tuile sur les toits, des colombages, tout ça a un coût.
Ouais,
pour compenser en fait le fait que c'est un coût et qu'un agriculteur compenser ce coût par son travail, on a eu l'idée d'inviter les gens à nous rejoindre dans l'aventure parce que en fait l'idée c'était vraiment de faire changer la mentalité des gens, de se dire retrouver une alimentation locale, faite avec amour, avec des fruits récoltés à maturité, tout ça. Donc, rejoignez-nous dans l'aventure et aidez-nous à bâtir cette Grange 21. Parce que les cisterciens ont bâti dans l'Europe entière au XIIe siècle des granges comme ça qui ont fait énormément de bien, ils ont asséché des marais, ils ont vraiment développé des techniques agricoles très fortes. Et donc, nous, on a repris cette image pour le 21e siècle, en disant, c'est un peu un projet phare de dire, nous, on croit à la transformation à la ferme, et on pense que c'est là qu'est l'avenir pour les agriculteurs. Mais pour que la transformation à la ferme marche, il faut que les gens viennent à la ferme acheter les produits. Donc, s'en est suivi une campagne de communication, mais qui nous a complètement dépassés, en fait. On a fait une vidéo, et elle a été relayée sur un réseau, et on a fait le buzz, et du coup... Mais ça nous a vraiment complètement dépassé dans le sens où en fait nous on a posté notre petite vidéo et on était tranquille à se dire on va communiquer sur la vidéo d'ici quelques jours et en fait comme elle a été relayée ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer et du coup c'était super parce qu'on n'a pas eu besoin de demander, les médias sont venus parce que ça correspondait aussi à un moment où en fait on s'est retrouvé avec le confinement. Et les gens n'avaient pas grand-chose à dire. Ouais. Il n'y avait pas de foot, pas de tennis, rien.
Ouais, là, c'est un beau projet.
Un projet qui est porteur de sens, qui en France a vraiment du sens encore plus. Hein. La France se bat pour sauver son agriculture depuis des années. C'est sûr que ça a répondu à des attentes. Et aussi, ça fait travailler des entreprises du coin, tout ça. Donc, on a été soutenu par l'État, par le Conseil régional. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais nous, on est émerveillés parce qu'on peut faire passer grâce à ça un double message et sur l'agriculture et sur la mission, et sur la sauvegarde de notre maison commune, quoi. Donc c'est un triple message, c'est fabuleux. Et on l'a pas choisi, donc c'est donné par le Seigneur, donc c'est encore plus riche de sens pour nous.
C'est génial. Et ça vous a permis aussi d'être aidé dans la levée de fonds pour ce projet?
C'est sûr que les gens, ils nous voient à la télé, ça nous fait des dons. Et on a été très touchés par la quantité de petits gestes, de petits dons qui ont fait des rivières. Alors, la levée de fonds n'est pas finie, loin de là, mais on a été tellement touchés. Une petite fille qui casse sa tirelire pour nous donner, des sous. C'est 10 euros, mais pour nous, ça a un sens fou. Il y a des personnes qui ont fait une kermesse, une loterie pour pouvoir nous donner, nous faire un don aussi. Voilà, il y a eu des petites initiatives. Il y a des prêtres qui ont fait leur quête de carême pour la communauté et d'autres, d'autres plus grandes initiatives avec des entreprises qui ont essayé de nous aider comme elles pouvaient. Mais finalement, on a eu plus de petits dons que de gros dons. Et en fait, tout est
le talkie-walkie qui sonne.
C'est quand même des
si on communique par talkie-walkie.
Ouais, c'est un moyen de se joindre entre nous, hein, parce que
ah bah oui, il faut bien d'une manière.
L'espace est long et grand.
Et du coup, quel est l'objectif en termes de financement pour financer un tel projet? On a besoin de combien d'argent?
Alors moi là, par contre, en chiffres, je m'y connais pas trop. Le projet en lui-même, dans mes souvenirs, il coûte environ 4 millions d'euros. L'État nous aide un peu, on en apporte un peu, mais il fallait qu'on récolte au moins 1,5 million.
D'accord, oui.
Et on les a pas.
Un vrai crowdfunding.
Oui.
Mais on se demandait justement, face à ces sommes et à l'ampleur du chantier, c'est voilà, un chantier assez faste quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec le vœu de pauvreté que vous faites à l'entrée de l'abbaye ici?
Alors, notre vœu de pauvreté, il veut pas dire qu'on va vivre dans la misère et qu'on va vivre de rien. Mmh. Notre vœu de pauvreté, c'est rien ne nous appartient en propre, tout est commun à tous. Mmh. Et chacune donne le meilleur d'elle-même pour vivre du travail de ses mains. Donc, évidemment, ce projet, il est par rapport à ce qu'on peut produire en tant qu'agricultrice, il est démesuré. C'est pour ça qu'on appelle à l'aide. Nous, on peut vivre de notre travail. C'est-à-dire que on est logé, nourri, blanchi grâce à notre travail. Mmh. L'entretien des bâtiments, en plus un bâtiment monument historique où il faut faire toujours des travaux selon des normes précises, on peut pas. Et c'est là où on a besoin d'aide. Et notre vœu de pauvreté, vraiment, on le vit dans le que tout soit commun à tous des premiers apôtres. Et voilà, et c'est ça qui est notre vœu de pauvreté, c'est en fait, je dépends entièrement de ce que me donne la communauté, ce que va pouvoir me donner la communauté. En fait, si je produis pas de travail comme il faut, eh ben la communauté ne pourra pas me donner ce qu'il faut. Mais c'est pas, il faut changer son regard sur le vœu de pauvreté, c'est vraiment pas, pour nous en tout cas. Après, il y a des monastères, des endroits où vivre du vœu de pauvreté, c'est vivre dans la dépendance, d'aller quêter, tout ça. Nous, c'est vraiment que tout soit commun à tous, et puis on a une vie sobre et heureuse. Après, à l'intérieur du monastère, on fait pas des folies de notre portefeuille. C'est une vie sobre et heureuse, mais tellement exaltant de manger le fruit du travail de ses mains, quoi. Les tomates, on les a vues, on les a plantées, on les a ramassées, on les a dans son assiette, on les déguste d'une façon tout à fait extraordinaire après.
Ouais, j'imagine, ça change la donne. C'est vraiment cultivé avec amour, et l'amour, pas seulement des sœurs, mais aussi du Seigneur.
Voilà, exactement.
Et l'amour de la terre. Et justement, tu parlais de nourriture, et ce rapport à la nourriture est assez important en ce moment, parce qu'on est quand même dans un temps de carême, justement. Il y a certaines privations, donc pourquoi ces privations, et comment donc gérer notre rapport à la nourriture par rapport à ce temps de carême, justement?
Alors, le rapport à la nourriture, il doit vraiment se gérer dans la juste mesure. En fait, il vaut mieux manger un peu de tout que de se priver d'une chose ou de dire que telle chose est mauvaise ou que tout ce qu'on mange avec mesure et modération est bon pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire excessivement attention dans la façon dont on parle, parce qu'il y a tellement de courants qui vont dire non, il faut pas manger de viande, non, il faut pas manger de lait, non, il faut pas manger de sucre. Non, on mange ce que le Seigneur nous donne avec modération. Nous, les produits qu'on mange, c'est des produits, on sait, ils sont pas shootés au conservateur ou tout ça. Il vaut mieux faire la cuisine soi-même. Et nous, pendant ce temps de carême, notre privation, elle est sur la viande. Mais c'est parce que c'est lié à... Normalement, dans la règle de Saint-Benoît, le moine se prive de viande toute l'année. Donc nous, on a gardé la privation de viande carême et avant, et 2 jours dans la semaine, mercredi et vendredi, toute l'année. Mais c'est pas en soi, c'est pas la privation qui est importante, c'est vraiment le rapport à la nourriture, se dire, en fait, ça m'est donné. Je ne mets pas la main dessus, je ne m'empiffre pas, je fais des choix raisonnables. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais manger tout le temps des bananes alors que je sais qu'elles sont produites avec des milliards de pesticides à l'autre bout du monde et que du coup pour venir dans mon assiette, C'est la catastrophe pour la maison commune. Où est-ce que je vais manger, je sais pas, les oranges d'Espagne ou les pommes d'à côté? Il y a aussi beaucoup de petites subtilités comme ça pour se dire, en fait, le rapport à la nourriture, il faut vraiment le réfléchir jusqu'au bout et retrouver un équilibre de modération, de dire, en fait, il y a des trucs, je peux m'en passer. Et il y en a d'autres, c'est pas malin de s'en passer. Donc, nous, pendant le carême, les privations, elles sont au goût de chacune, hein, j'allais dire, mais elles sont raisonnables parce qu'on a un gros travail agricole qui est nécessaire qu'on prenne des forces pour le faire. Si on met notre santé en danger parce qu'on prend pas les forces nécessaires, eh ben, on n'est pas en phase avec la communauté. Donc, c'est très subtil. Après, c'est vraiment à chacune. La sœur qui passe toute la journée assise derrière sa caisse au magasin ou devant son ordinateur parce qu'elle est sœur comptable, elle va pas avoir besoin de manger autant que la sœur qui fait la traite, qui amène les gros bidons de lait jusqu'à la fromagerie parce que pour l'instant, c'est un peu le camping. Et voilà. C'est vraiment, la privation, c'est vraiment pour un surcroît d'amour. Donc, c'est pour augmenter notre désir de Dieu. Donc, il faut que ça soit vraiment réfléchi dans ce sens-là. Après, moi, j'aime bien faire des petites privations en me disant, bah, si je me prive de ça tous les jours, à la fin, j'aurais fait une économie de 35 euros. Et ben, ces 35 euros, en communauté, on réfléchira. Parce que nous, pendant le carême, on fait aussi un don à une association. Ben, à la fin du carême, on réfléchit ensemble. Et moi, ça me parle. C'est peut-être un reste de quand j'étais petite, mais... Ça me parle de me dire que j'ai économisé 35 euros comme ça. C'est la personne qui va arrêter de qui fumait 15 cigarettes, qui n'en fume que 10, et ben à la fin du carême, elle a économisé combien de paquets. Ben ça, elle peut en faire une offrande. Et là, ça prend tout son sens parce que c'est une privation qui porte du sens. Et c'est comme ça qu'il faut les vivre parce que sinon c'est frustration. Et donc à la première tentation, voilà quoi.
C'est sûr, et le dimanche, on a quand même droit. Un petit peu plus.
Voilà. Ah, le dimanche, c'est pas carrément.
Il y a une trêve. Tu as utilisé le terme maison commune. Ça me fait penser à la fameuse encyclique donc du pape François Laudato Si, qui disait, j'ai une petite citation, « Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. » Est-ce que cette encyclique, tu trouves qu'elle a donné une certaine... prise de conscience écologique qui a parlé à beaucoup de monde. Est-ce que votre projet dans l'abbaye s'inscrit dans cette mouvance un peu?
Alors, nous, le projet s'inscrit dans cette mouvance, mais était en maturation bien avant. En fait, ça lui a donné... C'est un peu comme si ça lui donnait les lettres de noblesse. C'est-à-dire que, en fait, ça nous a permis de mettre des mots sur une attente qu'on percevait. Donc, on a pu mettre des mots sur ce qui nous paraissait important. Après, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que comme il donne le pape dans cette encyclique, il donne des petits gestes que chacun peut faire pour sauvegarder notre maison commune. Moi, en tout cas, profondément, ça m'a permis une remise en cause personnelle de me dire, mais et moi, personnellement, sœur Marine, qu'est-ce que je fais pour? Comment est-ce que je peux faire pour sauver ma planète? Bon, ben voilà, je mets un pull de plus au lieu d'allumer le chauffage. Je suis devenue une acharnée du tri sélectif, du tri des poubelles. Là, je suis au taquet. Là, vraiment, je sais où va quoi et je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi j'éteins mes lumières. Pourquoi je l'éteins? Parce que j'ai fait vœu de pauvreté, que je me dis que c'est de l'argent dépensé bêtement. Mais aussi, c'est une aide très concrète de me dire, cette électricité que tu dépenses pas, c'est bon pour la planète. Et en fait, c'est une aide. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est une aide pour vivre notre vie de pauvreté extraordinaire. Donc ça a été une aide, une très très grande aide. Et puis vraiment pour se remettre en question sur, parce qu'il le demande hein, dans l'encyclique, de consommer local, de faire attention à nos consommations d'eau. Ben, c'est des tout petits trucs. Mais ça, on peut tout le faire. Au lieu d'allumer l'eau à fond quand on se lave les dents, de mettre un tout petit filet, c'est rien du tout à faire comme geste. Mais si on fait tous ces petits gestes-là, ben le réchauffement climatique, peut-être il en prendra un coup. Et si on réapprend à réparer nos outils, enfin, il y a plein de choses, et il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Enfin, on est pris dans le mouvement et on ne va pas renoncer à tous les avantages de la modernité non plus. Donc nous, on congèle énormément de légumes l'été pour en manger tout l'hiver. C'est cohérent aussi. Mais moi j'ai trouvé que cette encyclique c'était fabuleux parce que ça me permettait de mettre des mots et puis d'incarner en fait un vœu, voilà, le vœu de pauvreté, c'est quoi? J'éteins la lumière quand j'en ai pas besoin. Oui, mais en plus là ça lui donne encore plus de sens.
Et ça donne beaucoup de sens aussi au projet de Grange 21.
Voilà. Ça, c'est sûr que on fait ce qu'il faut pour que l'eau, ça soit dépensé au minimum. Enfin, tout est réfléchi aussi de ce côté-là. Et puis on a une station d'assainissement qui est complètement avec des roseaux. C'est un filtre à roseaux, donc c'est l'eau après elle part dans une retenue collinaire et l'eau de la retenue collinaire permet d'arroser le potager. Donc il y a vraiment un beau tout est lié quoi.
Il y a une belle économie circulaire dans la ferme.
Et justement, ça me fait penser, ça va être reconnexion à la nature, à la planète, à une discussion que j'ai pu avoir avec Sœur Elisabeth qui nous expliquait que justement le fait d'être en permanence en extérieur, au jardin, auprès des vaches, etc., ça permettait aussi de mieux comprendre certains passages de la Bible et enfin, certains moments aussi religieux, enfin, par exemple là le carême, et il arrive quand même au printemps avec ensuite la résurrection du Christ qui arrive en même temps que les premiers bourgeons en fait, donc c'est la célébration de la vie et justement en fait c'est cette reconnexion à la nature qui prend tout son sens dans une vie moniale et dans une vie spirituelle.
Bah de toute façon oui, en fait ça prend du sens parce qu'on est en lien avec le Créateur. Parce que, et c'est vrai que là, on se rend compte, bah, Noël, les jours qui descendent, et puis le Seigneur qui naît au moment où la lumière reprend le pas sur les ténèbres, ça prend tout son sens, tout prend son sens. Après, c'est vrai que le carême qui arrive avec Pâques du printemps, c'est magnifique. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'aide encore plus, c'est vraiment ce contact avec la création, de se dire, mais en fait, en voyant quelque chose de si beau, mais combien elle doit être beau, la personne qui a pensé ça et agencé tout ça. Enfin, tu regardes les collines du Gers, nous, on a une vue, on est sur une colline, donc on a une vue magnifique de, quand on fait le tour de l'abbaye, on a une vue magnifique de partout. Et là, moi, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu dois être beau pour avoir fait une création aussi belle? Et c'est vrai que, du coup, ça élève l'âme tout de suite, le contact avec la création élève l'âme. Et aide, même si on n'est pas croyant, à se dire il y a forcément quelqu'un, quelque chose qui a créé ça pour que ça soit si beau.
Et donc vous faites partie de l'ordre des contemplatives, mais pourtant vous avez, je trouve, une certaine forme d'apostolat dans le sens où vous êtes bien ancré quand même dans le monde réel entre guillemets, dans le monde extérieur, avec la réception de beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi, à travers le cadre de l'hôtellerie, le magasin où il y a beaucoup de gens qui passent, la ferme qui sera sûrement peut-être visitée, je ne sais pas. Et donc, est-ce que cet ancrage au monde extérieur, c'est pas compliqué à concilier avec une vie cloîtrée, hein, par définition ?
En fait, on est contemplative. Notre source, notre ressource intérieure, c'est l'office divin, c'est les moments passés seul à seul avec le Seigneur, c'est le cœur de nos journées et c'est ça qui donne vie à toutes nos journées. Après, ça rayonne et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça rayonne, mais ça nous appartient pas. Ça rayonne parce que la source, on est connecté à la source. Si on n'était pas connecté à la source, ça ne rayonnerait pas. Donc cette dimension missionnaire, elle va être, à mon avis, et pour en avoir discuté plusieurs fois en communauté, à notre avis, de plus en plus importante dans l'Église de France et dans l'Église partout, universelle. Hein. C'est des îlots un peu de sainteté où les gens vont pouvoir venir se ressourcer pour après pouvoir aller témoigner dans le monde de la joie d'être chrétien. Il y a de moins en moins de prêtres, il y a de moins en moins de paroisses actives dans les campagnes, dans les grandes villes. Et ben, d'avoir des lieux, des espaces où on peut prendre force, et après pour repartir dans le monde, ça va devenir de plus en plus important. Et donc nous, on vit vraiment notre vie contemplative et notre dimension missionnaire comme ça. On est soyez ce que vous devez être et le feu se répandra sur la terre. Ce qu'on doit être, c'est monial, contemplative, avec notre premier devoir, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ. Et si on est fidèle à ça, un feu se répandra sur la terre. Et ça nous appartient pas, c'est une grâce du Seigneur, il le permet actuellement. Il y a des tas de communautés qui sont hyper fidèles à leur vocation et qui pour l'instant vivent un temps de désert. Mais le jour où le Seigneur va faire une pluie de grâce sur leur communauté, ça sera extraordinaire. Et c'est pour ça que nous, on doit tenir absolument l'action de grâce, dire au Seigneur, mais merci de nous permettre de vivre ça, merci pour tes dons, tout est donné, tout est donné. Et on doit continuer à demander ces dons. Donc voilà, moi je pense que pour nous, ce qui est vraiment le plus important, c'est pour ça qu'on est monial, contemplatif, cloîtré, au service du Seigneur. C'est là la source de notre rayonnement actuel. Après, les gens, ils viennent nous voir et ils en ressortent. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a aussi un petit cadeau que nous a laissé Claire de Castelbajac avant de, enfin, pour notre communauté, parce que les gens sont très marqués par la joie de la communauté.
Vraiment.
Or, c'était aussi ce qui marquait énormément les gens qui connaissaient Claire de Castelbajac. Donc, je pense que c'est lié. Après, le pape François nous invite très souvent les chrétiens à avoir des têtes de ressuscité, hein, de pas des poivrons ou vinaigre. On connaît la fin de l'histoire, on sait qu'on est sauvé, donc c'est bien que ça se voit. Voilà.
Et donc l'abbaye de Boulor, c'est vraiment un lieu pour prendre force, un lieu pour rencontrer la joie, mais qui n'est pas exclusivement réservé à des personnes déjà croyantes, à des chrétiens, à des baptisés. C'est vraiment un lieu de rencontre aussi, de rencontre avec
non,
le Seigneur.
Non, parce que les personnes qui viennent au magasin, ils viennent de partout. Et là, en fait, on va témoigner. Je me dis un sourire, une réponse. Aimable, juste un geste posé, ça suffit pour toucher des cœurs.
Ouais. En tout cas,
c'est vrai que nous, en tout cas, nos cœurs ont été touchés.
Ouais.
Et la joie qui rayonne des 31 sœurs, vraiment, est très impressionnante.
Énergie,
ouais. Et c'est vrai que je pense qu'on repartira de l'abbaye de Boulor pleine de joie et ressourcée, comme tu le décris.
Et de pots de confiture.
et en ayant bien mangé quand même, on va pas se mentir. Merci beaucoup pour ce temps précieux, ouais. Sœur Marine.
Avec joie.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie.
Et si ce petit parcours à la femme vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
Ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo.
Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram @surlechamp2020 ou notre page Facebook Sur le Champ.
Allez, ciao !